nous accueillons, comme on le fait régulièrement, le docteur Amir Kadir qui est avec nous. Docteur Kadir, bonjour.
Bonjour, Monsieur Wood.
Je veux vous amener tout de suite, docteur Kadir, sur la situation à Montréal. Je disais, j'ai fait une entrevue avec la ministre de la Santé, Mme McCann, préoccupation très vive, il y a cette date du 25 mai qui pourrait très bien être repoussée. Quel est votre point de vue, Amir Kadir, sur le taux de propagation encore du virus ici à Montréal et ce que ça implique dans un déconfinement et une réouverture montréalaise, notamment des commerces?
Je pense que ça nous appelle à la prudence. La situation de Montréal est quand même désolante à plusieurs égards. La première chose, c'est que, disons que c'est un peu gênant de voir l'écart entre les quartiers riches et pauvres. Comment cette crise a jeté une lumière crue sur ce qu'est la réalité de la maladie pour les gens qui sont moins bien nantis par rapport à d'autres. On le savait pour différents autres types de maladies, les maladies pulmonaires, maladies cardiovasculaires, tout ça. Puis là, même pour un virus comme le COVID, tout d'un coup, Montréal-Nord, quartier Saint-Michel, parc extension, le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où il y a des poches quand même de pauvreté, on voit que ça frappe beaucoup plus. Donc, il y a cette dimension qui est vraiment très désolante et alarmante et qui doit nous guider à une intervention mieux ciblée et surtout pas de précipitation. Je suis persuadé que si on fait les choses comme les épidémiologistes...
On a souvent... Oui, allez-y.
Oui, qu'on nous demande de le faire, il ne faut pas fixer une date, mais plutôt des objectifs. Il faut se dire, voici le nombre de jours durant lesquels il faut que l'infection soit sous contrôle et les taux diminuent. Voici le nombre de gens qu'il faut qu'on ait besoin pour retracer les cas et les isoler, ceux qu'on aura détectés pour les isoler. Donc, une fois qu'on aura atteint ces objectifs, on déconfine. Parce que si on fixe une date, on va être à chaque fois déçu de voir qu'on n'est pas capable de le réaliser.
Et pas seulement ici, mais c'est comme ça partout ailleurs, que ce soit dans des grandes villes comme Londres ou même à New York, où on a repoussé aussi encore, au moins jusqu'à la fin mai, et probablement l'urgence sanitaire jusqu'à la mi-juin. Donc ça concerne beaucoup aussi le milieu urbain des grandes villes.
Oui, mais en fait, Montréal se situe, d'après ce que je comprends, dans les 10 premiers d'un triste record qui est celui d'avoir les plus hauts taux d'incidence et de mortalité. Donc, il faut qu'on fasse attention.
Docteur Kadir, on regarde la situation en ce moment. Vous avez le Québec, ou enfin, je dirais le reste du Québec. Dans certaines régions du Québec, la pandémie est pratiquement inexistante. Non seulement au niveau du nombre de décès, mais il n'y a pas de transmission de cas.
Oui.
Et je disais, est-ce que pour vous, Amir Kadir, on commencera à être rassuré à Montréal quand on aura, une fois pour toutes, aplati cette courbe de transmission et qui était encore à 900 cas, 700 cas hier.
Oui, c'est ce que recommande l'OMS, c'est ce que recommande la CDC d'Atlanta, le Center for Disease Control, c'est ce que recommandent nos propres spécialistes de santé publique. Je pense à l'INSPQ qui a rappelé ces grandes règles. Donc, vraiment, il y a un impératif. Et moi, je comprends très bien le dilemme dans lequel se trouvent M. Legault et les responsables, Mme McCann. Mais je me demande où est le plan de recrutement massif au sein de la santé publique pour identifier si on n'est pas capable de recruter des professionnels. Il faut faire preuve de souplesse et former des gens qui ont un minimum nécessaire pour pouvoir faire le retraçage des cas pour qu'on puisse surmonter la difficulté.
Pour vous, c'est important.
Le problème, c'est les tests.
C'est ça. Donc, le retraçage, pas seulement les tests, mais le retraçage.
Oui, exact, parce qu'on a beau rendre disponible 10, 15, 20 000 tests, si une fois qu'on trouve des positifs, on n'est pas capable de les isoler à temps puis de retrouver leurs contacts, ben, on n'est pas sorti du bois. Donc, vraiment, il y a un effort à faire. Il y a plusieurs compétences de haut niveau en virologie, en spécialité de laboratoire au Québec. Est-ce qu'on les sollicite suffisamment pour qu'ils développent, à partir de ce qu'on a déjà comme plateforme, d'autres plateformes faites maison, comme on le fait souvent au LSPQ lorsqu'il y a certaines maladies plus rares pour lesquelles on n'a pas de test commercial, mais développer des tests maison pour mener ces tests-là à grande échelle. Je suis persuadé qu'on a les compétences, il faut maintenant les mobiliser.
La préoccupation depuis le premier jour, quand je dis le premier jour, moi je situe ça début mars, quand on a vu venir la possibilité d'une grande pandémie, c'était la capacité hospitalière. Et l'obsession de tous les gouvernements, et c'était le cas aussi en Europe, c'était que le système de santé puisse tenir le coup. Or, ce matin, dans la presse, il y a cette étude de modélisation qui a été réalisée pour le compte de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui dit que la capacité hospitalière pour Montréal, la capacité de résister encore à une surcharge est bien mince, que les hôpitaux de Montréal et de sa périphérie pourraient déborder d'ici deux semaines si l'assouplissement des mesures de confinement et de non-respect de la distanciation amène une recrudescence. Donc, ça vient appuyer ce que vous dites, dans le sens qu'on ne peut pas parler de date. On ne peut pas parler d'une date de déconfinement et de redémarrage spectaculaire à Montréal.
Oui, exactement. Puis je crois que la précipitation, de toute façon, on sait que même les pays les mieux préparés, les mieux outillés, on pense à la Corée du Sud.
Ah, je pense que nous avons perdu. Ah bon, il est revenu, je crois.
Je disais que même lorsqu'on pense à la Corée du Sud, un des pays les mieux préparés, ouais, les mieux outillés, une fois qu'on a assoubli, on sait qu'il va y avoir des vagues successives. Et donc, on sait qu'il faut avoir les capacités d'absorber ces vagues. Et donc, si aujourd'hui, on est déjà un peu limite, déconfiné trop rapidement, on risque de se ramasser avec plus de problèmes. Et il ne faut pas oublier, on n'est pas au début de la crise. On est deux mois dans la crise et il y a des épuisements. Il y a des gens qui sont tombés dans le sens qu'ils ont attrapé la maladie, du personnel de santé ont été obligés de se retirer. Donc, on n'est pas dans la même capacité physique, morale, de l'affronter qu'il y a deux mois. Donc, il faut faire attention à ça. S'il y a une autre vague qui arrive trop tôt et qui dépasse trop tôt nos capacités, ça va causer des problèmes majeurs.
Vous savez, Dr Kadir, ce que vous dites là, et je sais que ça va vous toucher personnellement, on a un bel exemple en Iran. L'Iran a été parmi les premiers pays, avec l'Italie, avant même l'Italie, à être durement touché par la pandémie. Depuis un certain temps, le nombre de décès était relativement stable, moins 50 décès par jour. Et puis voilà que depuis quelques jours, l'inquiétude renaît. Ben oui, ça flambe. 2000 cas par jour. C'est comme si on avait rallumé la pandémie.
Oui.
Ouais. Comment vous expliquez ça?
Est-ce que comment expliquer? Est-ce que quelqu'un dans le monde peut expliquer autrement que par le fait que c'est un virus très contagieux contre lequel une grande, grande partie de la population, regardez, dans les études épidémiologiques, sérologiques qui ont été faites, la moyenne des pays en termes de séroprévalence, donc de gens qui ont déjà été en contact avec le virus et qui ont développé une immunité, tourne alentour de 6-7%. Il y a des pointes, parfois dans certaines zones, jusqu'à 50%, mais il y en a beaucoup qui sont à 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 95% des gens qui ne l'ont pas attrapé, qui n'ont pas été en contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un bassin encore infini de personnes qui sont susceptibles d'attraper la maladie, qui sont à risque. Et ça ne veut pas dire qu'il faut jamais, on va finir un jour tous par avoir été en contact ou un grand nombre, mais il faut le faire d'une manière suffisamment étalée pour qu'on ne soit pas débordé, puis qu'on soit obligé de fermer nos routes, nos institutions, nos usines et tout ça comme on l'a fait actuellement. Donc, c'est ça l'idée. Allons-y doucement pour être mieux en mesure de sortir de cette crise rapidement. Puis peut-être aussi, M. Aoud, parce qu'on parle uniquement des aspects techniques de la maladie, là, on a une possibilité de recul socialement, globalement. On a plus de temps de réfléchir comment on reprend les choses. Ça pourrait être un déclencheur de beaucoup de changements. Ça fait longtemps qu'on a entrepris, puis on se dit il faut sortir, par exemple, de notre dépendance aux énergies fossiles. Ben voilà, il y a une bonne opportunité d'accélérer cette sortie-là en laissant... Donc, réfléchir à autre chose que dans cette obsession de repartir les usines, la machine, la production, exactement comme c'était en avant.
Vous avez tellement raison. Je disais à la blague, Amir Kadir, et c'est pas une blague, je mets de l'essence maintenant une fois par mois. C'est-à-dire que je suis capable, je note juste pour le plaisir et je dis, ah, j'ai pas mis de l'essence depuis le mois de mars. Ben, vous voyez, et je fonctionne quand même. Et bon.
Et ça, il me semble qu'on pourrait prendre un peu plus de temps collectivement de dire, bon, le virus, la maladie, on sait qu'elle est grave, puis on va s'en occuper, mais réfléchissons maintenant tout ce qu'on a eu comme enseignement, les choses qu'on peut organiser, arranger différemment ouais. pour ouais. moins consommer, moins détruire, moins polluer. Déjà là, les risques d'accidents, le nombre d'accidents en France, je ne sais pas si vous avez des statistiques, la pollution de l'air qui cause des problèmes respiratoires aux patients plus âgés ou aux malades des poumons, tout ça a baissé. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans le fait de ouais. ralentir puis d'arrêter. Fait que prenons la meilleure partie des choses, faisons de cette tragédie quelque chose d'un peu positif en réfléchissant sur comment on peut changer notre modèle d'économie, de production. Je pense que c'est une chance inouïe, il ne faut pas le gâcher.
Merci beaucoup, Amir Kadir. À la prochaine.